Food sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good, 30 minutes pour profiter des ondes positives de mon invité, 30 minutes pour aller à la rencontre d'un homme qui apporte ses ondes positives aussi bien dans son... Alors lui, c'est la triptyque, hein, professionnel, bénévole, perso, on aura la totale. Madame, mesdemoiselles, messieurs, 30 minutes pour aller à la rencontre d'un homme donc qui apporte effectivement un peu de bien-être là où il s'engage. J'ai le plaisir d'aller à la rencontre de Lionel Olinger.
So good!
Bon, je vais oublier des fonctions, j'essaie de reprendre un petit peu mes papiers. Alors, il est DG, directeur général du FC Metz Stadium.
Stadium,
bonjour. Vice-président Christophe. Attends. Vice-président de la Fédération Française de Tennis France. Président de la Fédé de Tennis Grand Est.
La Ligue Grand Est.
De la Ligue. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
C'est déjà pas mal.
C'est pas mal. Comment tu fais pour tenir un agenda de 24 heures avec toutes ses responsabilités, plus une vie de famille intense?
Oui, alors c'est pas simple, hein. Il y a des contraintes évidemment, c'est 7 jours sur 7 déjà, les week-ends, la semaine, tout ça se mélange un petit peu, je dors pas beaucoup, j'ai cette chance-là, et puis bon, globalement, voilà, ma vie, mes hobbies, ma famille, tout ça se mélange dans un joyeux équilibre, on va dire, enfin l'équilibre, c'est toujours pas facile encore une fois, hein, particulièrement en ce moment, mais voilà, c'est ma vie, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, je suis à fond.
Alors, si on fait l'étalage des responsabilités, des fonctions, on pourrait se dire, bah là, on se la pète là. Non, pas du tout, on va aller rencontrer Lionel Olinger. Lionel Olinger, il y a 3 dates importantes dans sa vie et pas que dans la sienne. Il y en a une qui est la dernière que tu m'as donnée, c'est celle du 6 février 2015. C'est quoi le 6 février 2015?
Et c'est mon fils Arthur qui va nous quitter, voilà, à l'âge de 10 ans, après 8 ans de bagarre sur une tumeur au cerveau. Donc une histoire très particulière qui a été gérée de main de maître par le professeur Pascal Chastanier, qui est en charge du service d'oncopédiatrie ici à Brabois, et vraiment voilà, ça a marqué 8 ans de ma vie avant et puis toute ma vie à partir de cette date.
Parce que, et tu l'évoques dans le livre, que tu as eu envie d'écrire, qu'on t'a suscité, qu'on t'a demandé aussi d'écrire un petit peu comme un château de sable. Là, tu as fait une pause à un moment quand même.
Oui, une pause dans toutes mes activités pour me consacrer à ce qui était l'essentiel de ma vie, mes enfants, mes triplés, hein, puisque Arthur était avec ses 2 sœurs. Et je m'arrête de travailler, en effet, et on discute avec Pascal Chastanier de la possibilité de faire ce livre. Il va en écrire la préface et je vais me faire accompagner d'un formidable journaliste qui s'appelle Fabrice Barbian, qui va me prendre la main pour tout ce que j'avais déjà écrit, pouvoir le mettre en ordre et faire quelque chose de cohérent et évidemment donner toutes ces ventes, les 5000 livres qu'on a pu vendre, eh bien, à la recherche contre le cancer de l'enfant, puisqu'il n'y a voilà, il n'y a pas un cancer, il y a des cancers chez l'enfant et chaque histoire est une histoire différente. Donc c'est, il faut le faire savoir et la Fédération Enfants Cancer Santé en France et Enfants Cancer Santé Grand Est le fait savoir et c'est important pour moi de poursuivre cette œuvre-là.
Alors le petit Arthur, c'est au milieu de cet océan de vie active que tu as, c'était un arrêt avec ton épouse. Vous l'avez décidé ensemble. Comment vous avez accompagné, surtout que là on donne le 6 février 2015, mais c'était une longue période d'accompagnement.
Oui, ça a duré 8 ans. C'est Pascal Chastanier qui en effet nous fait la proposition unique de pouvoir accompagner Arthur à domicile, de faire toute la fin de vie à domicile, d'aller effectivement dans le meilleur des cas, on va dire quelques semaines, quelques mois avec lui. Ça va durer finalement presque 18 mois. Et c'était une formidable expérience où mon épouse avait déjà arrêté de travailler, s'en occuper et très bien depuis le début. Et il y avait besoin que l'on puisse l'aider. J'ai fait ce que je pouvais.
Aujourd'hui, on est dans l'actualité où on a une convention citoyenne qui s'exprime assez fort sur l'euthanasie. On dit la fin de vie, on dit mourir aussi. Enfin voilà. Avec un débat qui n'a pas pu avoir lieu, c'est sur justement l'accompagnement pour les mineurs.
C'est vrai, c'est un débat qui est lointain, puisque je me rappelle que quand nous on était sur la fin de vie d'Arthur, la loi Leonetti était en discussion au Parlement à ce moment-là. On a d'ailleurs été à ce moment-là un petit peu interrogé sur ces questions. Moi, j'ai toujours été très favorable à la liberté de penser, à la liberté d'agir. Et quand on est mineur et quand on est un enfant, effectivement, là, nous, il avait 10 ans, mais ça s'est déclenché à l'âge de 2 ans. Je pense que c'est important d'avoir l'avis des parents et l'avis des médecins. Et nous, on a eu cette chance d'avoir toujours été alignés avec Pascal Chastanier et avec la famille pour faire ce qui nous semblait être le mieux pour Arthur, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde.
Alors tout ça semble bien posé dans ta vie, avec les mots.
Maintenant oui, ça a été plus délicat il y a quelques temps, évidemment.
Alors comment... Mais c'est quoi le...
Je crois que c'est les montagnes russes dans ma vie, avec beaucoup de up and down, et quand on est très en bas, eh bien, on a envie d'aller le plus vite possible, le plus haut possible, et puis j'essaye en tout cas au mieux que je peux de me nourrir de l'énergie des difficultés, Dieu sait si on en a eu, et ces difficultés-là, ça me donne effectivement l'envie de vivre des belles choses. Je parle toujours d'un ratio plaisir en merde et j'ai besoin d'équilibrer ce ratio, et quand on a beaucoup d'emmerdes, mais on a envie d'aller chercher beaucoup de plaisir aussi, et c'est un peu ce qui guide à chaque fois les actions que je mène par rapport aux difficultés que j'ai rencontrées.
Même en février 2015, là, en début février 2015, comment t'as vécu avec les petites sœurs?
On se met au vert, forcément, à ce moment-là, on se met effectivement, on part, je me rappelle bien, en Autriche, plusieurs semaines pour se mettre au vert, on remet les choses en place, les idées en place, et puis derrière, on repart sur, effectivement, une vie différente, avec la volonté de passer à d'autres souvenirs, des souvenirs à 4, là où nous avions des souvenirs à 5, des souvenirs qui vont se construire à travers les 4 continents, des grands voyages, découverte de culture, vivre avec les Maasai en Tanzanie, vivre avec les Kogi, les Indiens Kogi en Colombie. Voilà, j'ai emmené un petit peu à travers le monde pour à chaque fois faire des expériences nouvelles et des expériences qu'elles allaient mener toutes les deux ensemble et plus avec leurs frères.
Et donc à la fois il y a un repli sur la tribu familiale, les quatre, voilà, pour s'ouvrir aux autres. Très loin.
Oui, c'est ça. Alors moi, je suis toujours, d'ailleurs, ça peut être très problématique pour ma propre famille, parce que je donne beaucoup de temps aux autres et pas forcément beaucoup de temps à eux, mais je suis toujours très ouvert aux autres. Moi, ce qui m'intéresse quand je visite un pays, c'est pas forcément les paysages, c'est plutôt les civilisations ou les gens que je vais y rencontrer. C'est exactement ce que je souhaitais pour mes filles, qui maintenant, d'ailleurs, ont pris le parti de vouloir voyager.
Sans les parents.
Elles sont sur des parcours qui vont faire qu'elles se sont... En effet, ça a bien marché, quoi. Elles se sont ouvertes aux cultures. Mais c'est ça que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens.
Ça gère quand même pour le papa.
C'est une autre partie de ma vie.
C'est le livre Comme un château de sable. Il a servi à quoi pour toi?
Forcément un exutoire, je pense. Ouais. C'est des textes que j'avais écrits en live, encore une fois, tous les matins. Je me lève assez tôt, donc j'écrivais, pas forcément lié à la maladie d'Arthur d'ailleurs, mais
ça m'a... cette culture déjà de l'écrire un petit
oui,
peu
oui, 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 ouais, oui, toujours. Alors, j'ai pas le brio, je suis pas un auteur, mais j'ai besoin de laisser une trace, ne serait-ce que pour moi, d'abord, et puis ensuite, évidemment, pour tous ceux qui en ont besoin. Et c'est vrai qu'on en avait discuté aussi avec le professeur Chastanier et qui pensait que cette expérience qui est a priori unique puisse servir à d'autres.
Alors en quoi c'était unique et en quoi le corps médical avait aussi un peu besoin de ce livre-là?
La longueur en fait de sur une tumeur de ce type-là très invasive, découverte à l'âge de 2 ans et qui fait la taille d'une orange, on peut se dire que ça va durer très peu de temps et ça va durer finalement 8 ans avec 8 interventions, avec chirurgicales de près de entre 8 et 10 heures à chaque fois, c'est très très lourd, hein, donc trépanation, enfin très compliqué, et à l'arrivée des médecins qui à travers le monde entier, puisque le professeur Chastanier partageait dans le monde entier, des médecins qui ne savaient pas exactement, qui ne savaient pas d'ailleurs du tout ce qui se passait. Donc la typicité du truc, c'est la longueur de l'histoire, effectivement, et après le fait de pouvoir s'occuper de lui jusqu'au bout à la maison, et que ce soit les parents qui le fassent et que ce ne soit pas des soignants. On était évidemment accompagné de soignants, mais de pouvoir mettre ces conditions de fin de vie, certes difficiles pour nous, mais en tout cas idéales pour le petit.
Est-ce que je pourrais aller jusqu'à l'expression, est-ce que cet accompagnement-là a rendu votre famille peut-être heureuse, ou en tout cas ça lui a permis un chemin d'apaisement?
En tout cas, moi j'ai jamais de regrets. Si c'est à refaire, c'est exactement ce qu'on referait, je pense. Ça a aussi brisé pas mal de choses. Voilà. Mais ça, c'est plus récent.
Les filles vont bien?
Les filles vont bien. Les filles vont bien, elles ont passé leur bac, elles sont en plein concours, donc ça va bien.
Elles veulent partir où?
L'une prépare l'école de santé des armées.
Ah oui.
Donc, à Lyon. Et l'autre se verrait bien être étudiante à Paris, donc en architecture ou en école d'art. Donc elles vont très bien.
Bon. Du coup, le papa a rebondi aussi en s'engageant à fond, mais c'était déjà un peu dans l'ADN initial. On a rien de... Tu dis bien, j'ai fait une coupure.
C'est ça.
L'ADN initial, il vient d'où?
Je crois qu'il vient de mes parents déjà. J'ai un papa qui est très très actif, maman aussi. Et mon père était vice-président de la ligue de handball, président du club de handball. On jouait en national à l'époque. Moi, j'étais handballeur, donc voilà. Et maman, présidente du club de tennis. Donc je les voyais l'une au tennis, l'autre au handball. Donc j'étais déjà là-dedans. Donc il y a vraiment de l'atavisme. et puis, diagnostiqué très tôt, je pense hyperactif. Donc moi, je faisais plein de choses. Je jouais au handball, j'arbitrais le handball, je jouais au tennis, j'enseignais le tennis. Enfin, je faisais... Voilà. Donc j'ai toujours été là-dedans, dans ce rythme-là. J'ai toujours eu une vie associative, bénévole, très très forte. Une vie professionnelle ensuite qui a démarré, ma vie perso. Et j'ai un peu mélangé tout ça avec, bien sûr aussi, tous mes travers d'être entier et de parfois aussi faire mal les choses, clairement. On a le sentiment de faire tout mal quand on fait beaucoup de choses. Mais voilà, je ne m'épanouis que quand il y a de la complexité, de l'action et quand j'ai la possibilité de rencontrer un maximum de gens parce que voilà, j'aime découvrir de nouvelles personnes à chaque fois.
Alors, tout est parti du côté de Bouzonville.
C'est ça, je suis de Bouzonville.
Ensuite, alors le parcours scolaire, alors ça nous emmène où alors tout
alors,
ça
je fais ma scolarité à Bouzonville, chez à l'Institut de la Providence, chez les chercheurs, hein, donc et puis ensuite je vais à la Faber en internat pour passer finalement pas un bac scientifique parce que je me rendrais compte en première que je suis pas un scientifique et je m'oriente vers la première classe d'économie qu'ils ouvraient et puis une école de commerce à Paris, puis ensuite un DESS, on appelle à peu près, maintenant c'est un Master 2, je crois, de management du sport déjà. C'était le premier qui était ouvert à l'Université de Strasbourg. Voilà, j'ai jamais travaillé dans le sport finalement avant les 3-4 dernières années, mais c'était ma passion dès le départ. Donc j'avais adjoint à mon diplôme d'école de commerce et bien ce diplôme. On était dans les années tapis, c'était marrant de s'intéresser à l'économie du sport.
Donc, économie, sport, j'aime bien aussi parler avec toi d'une triptyque territoire. On va en parler dans quelques instants dans tes fonctions et tes responsabilités. Sur la carrière professionnelle, tu fais beaucoup de commerce avant d'arriver dans le Graal aujourd'hui du sport et de l'économie. Ça veut dire un petit peu de un petit peu bosser chez Elior. Tu as été directeur régional chez Elior.
Ouais, j'ai commencé chez Accor en fait pendant 10 ans dans l'hôtellerie, enfin le ticket restaurant au départ et ensuite l'hôtellerie où je dirigeais les marques Mercure, Novotel et Sofitel sur le plan commercial. Et puis ensuite Elior, cousin germain de Accor, 10 ans en effet jusqu'à un poste de directeur régional pour les régions nord et est en fait, et là je suis revenu dans la région parce que je suis parti de chez Accor parce que les triplés sont nés à Paris et honnêtement élever des triplés c'était compliqué à Paris, donc à l'âge de 1 an on a rapatrié tout le monde dans le Grand Est et donc j'ai très vite travaillé pour Elior pendant 10 ans.
Ce qui fait le lien avec cette première date importante dans ta vie, et on voit bien que on te présente en disant super DG, super président, tout ça nanana, mais en fait les choix de vie personnelle ont marqué.
Prioritaire.
Hein. 10 février 2005, l'arrivée des triplés.
Oui, c'est un tournant, évidemment, quand on se bat pour avoir des enfants, qu'on n'en a pas, et que finalement, il y en a 3 qui arrivent. On se dit que j'étais chez Accor à ce moment-là, je voyageais à peu près partout, j'étais jamais là, même pas à Paris.
Une belle carrière devant toi, enfin un grand groupe.
Oui, je pense que je suis encore chez Accor, je suis un bébé Accor, moi j'ai plein de copains qui sont... Enfin, je sais pas si j'ai... On verra, les carrières c'est toujours bizarre, mais on ne sait pas si ce que ça aurait pu donner, mais c'est mon entreprise de cœur, Accor. Voilà. Et je serais probablement resté, mais ça n'avait pas de sens. On ne peut pas avoir l'envie d'avoir des enfants, et puis derrière, ne pas s'y consacrer un minimum en tout cas.
Ces choix, on l'a vu fort, ou ces choix importants, comment tu les fais en intériorité, en dialogue, comment tu
les fais?
Comment
beaucoup,
il opère, l'ingé?
Ouais, il est un peu quand même égocentré. J'écoute beaucoup, je m'écoute beaucoup moi, peut-être trop parfois, mais je fais beaucoup de méditation. Donc je suis très introspectif dans ces moments-là. Autant je suis très speed tout le temps, mais autant le matin et en particulier dans des moments de difficultés, j'ai besoin de me retrouver. Et donc ça m'aide beaucoup, la sophrologie, la méditation, et j'essaie d'écouter au plus profond de moi ce qui est le mieux. Parfois je fais beaucoup de mal, mais j'essaie de garder mes valeurs.
Une petite pause musicale pour digérer un petit peu tout ça.
Oula, faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été, trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai, c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça. Stop, ça y est, j'arrête de penser. Je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser. Je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser. Je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser. Je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Je vais me relever.
À côté de ça, il y a le silence de mes amis à qui j'ai renoncé par amour et qui me rappelle qu'aujourd'hui je n'ai plus ni elle ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien. Moi je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon.
J'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser. Je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser. Je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser. Je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Je vais me relever.
Avancer se rassembler, s'enflancher en jambes. Et le chantier des pensées semblait emmêler, je m'y collais sans délai. Mes soucis prenez-les, et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche.
Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Ben Mazuet, drôle de choix, monsieur.
C'est ma fille qui m'a fait découvrir. Ouais, j'adore, j'adore l'écouter en boucle quand je cours, c'est ouais, un truc de dingue.
Mmh. Ouais, alors, oui, d'accord. Faut que je marche, faut toujours aller devant, faut toujours avoir. faut pas s'arrêter de temps en temps.
Ouais, attention, deuxième strophe, stop, allez, j'arrête de me presser. Je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. C'est vachement bien quand même.
Le sport, ça peut être ce lieu où justement ça pousse, puis à un moment on s'arrête aussi pour décompresser.
Ah oui, si moi je peux pas sans sport, c'est pas possible, j'explose, donc je suis obligé d'en faire tout le temps. Alors pas tous les jours parce que c'est compliqué, mais à grosse dose quand même, et un peu tout d'ailleurs, tout et n'importe quoi. Bien sûr un peu de compétition en tennis, mais surtout maintenant du sport le plus libre possible. La montagne aussi énorme, le canyoning, j'adore ça. Enfin, ça me vide la tête.
La ligue de tennis, ça se passe comment, l'arrivée de Lingé, c'est des rencontres, je crois.
Oui, déjà c'est le troisième mandat, hein, la Lorraine d'abord, le Grand Est qu'il a fallu construire, un deuxième mandat sur le Grand Est en ce moment, et puis une dizaine de départements, des présidents de départements, enfin voilà, il faut coordonner tout ça, il faut il y a un peu de politique parce qu'il faut faire attention et il faut préserver
c'est
chacun.
Éminemment politique, oui, c'est beaucoup, éminemment ouais. Compliqué. On a vu quelques papiers quand même un peu compliqués sur la Ligue. Alors la Ligue Lorraine y arrive et c'est la deuxième date importante, le 12 juin 2013, et puis la fusion des régions fait qu'on arrive à la Ligue Grand Est. Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont nostalgiques et regrettent et puis qui ont envie de retourner à la Ligue Lorraine, ou au contraire
Pas du tout. Voilà. Au départ, j'étais pas très convaincu de ces régions, en particulier dans le sport, elles ont des contraintes, c'est clair, notamment sur le sport de masse, mais bon, on sait les limiter, mais pour le haut niveau, et moi je pense qu'on est toujours plus fort ensemble.
C'est vrai, tu le vérifies aujourd'hui.
Mais c'est très clair, on est devenu la première ligue formatrice en termes de jeunes espoirs, parce qu'on a pu faire jouer les Champardonnais avec les Lorrains et les Alsaciens. Surtout pas de repli sur soi, je suis contre toute forme de repli sur soi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être européen avant tout, voilà, et ensuite seulement je suis français, et ensuite seulement je suis du Grand Est, et moi j'aime Nancy, et même si je suis de Metz, et c'est comme ça que je fonctionne.
Et donc tu es aussi directeur général du FC Metz Stadium, voilà, je voulais pas me planter, c'était parti, c'est-à-dire que tu t'occupes de tout sauf de l'aspect sportif, c'est ça ?
C'est ça, pas le football. Ma collègue Hélène Schrub est la directrice générale du football club de Metz, et nous avons créé une société à côté qui s'appelle le FC Metz Stadium, où nous avons la propriété du stade Saint-Symphorien qui a été reconstruit, enfin qui est encore en train d'être reconstruit, et puis des centres d'entraînement, celui de Frescati, et puis on fait tout ce qui n'est pas football.
Un
très gros cercle d'affaires qui, avec plein de conférences, on fait entre 80 et 100 conférences par an au cercle des Parèges avec 550 chefs d'entreprise qui viennent.
Une superbe institution.
C'est chouette, on s'amuse bien et c'est intellectuellement vraiment hyper intéressant. On fait des séminaires,
on se rencontre.
Exactement. Beaucoup d'échanges. Voilà, 365 jours, moins les 20 jours de match, puisque les 20 jours de match, le cercle des Parèges devient la corbeille présidentielle. Donc,
extraordinaire. Un peu unique quand même en France.
Ah, mais complètement unique. Une idée du président Bernard Serin, évidemment, qui est incroyable, qui a voyagé à travers le monde dans sa carrière et qui a été pêché ça à New York avec le University Club de la 5e Avenue, mais aussi en Belgique, à Londres. Et ces cercles d'affaires très anglo-saxons, c'est avant tout des lieux. C'est des lieux de rencontre. Et c'est vraiment des plateformes de rencontre horizontales où les gens sont bien, quoi. Ils viennent pour.
Et toi, t'adores.
Ah, moi, j'adore. J'adore.
J'adore le contexte du sport, mais en même temps, c'est de l'économie, c'est de la rencontre.
Ça vient un petit peu, finalement, faire la boucle des différents sujets qui ont été les sujets de ma vie jusque-là. Le sport, en effet, l'économie, le bénévolat, les gens, enfin voilà, un lieu de rencontre. Enfin, je trouve que c'est un creuset. Comme dirait mon président Serin, le creuset d'une nouvelle ambition. Et c'est vrai, c'est, je crois, une vraie belle parole.
Serin, tu le rencontres où aussi?
On se croisait sans se connaître. Moi, je le connaissais évidemment mieux que qu'il ne me connaissait. Mais je l'invite un jour à Roland-Garros. Je n'étais pas vice-président de la fédération à ce moment-là, mais j'avais la possibilité d'inviter malgré tout en tribune présidentielle. Et on passe une journée avec lui, avec son épouse, et on fait connaissance. Et puis, on va garder contact une fois par an. Et puis, un jour, je fais le choix de revenir de mes fonctions de Paris vers la région pour, là aussi, voir davantage mes filles. Elles entraient au lycée à ce moment-là. Je me disais que j'étais en train de perdre des années de nouveau. Et il me propose de venir l'aider, monter ce nouveau projet, de détruire l'ancien stade Saint-Symphorien, construire la nouvelle tribune. Alors, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas ingénieur, hein, donc c'était pas facile. Et puis surtout construire une société d'exploitation avec autre chose que le football. Et un projet incroyable qu'on mène encore maintenant, parce qu'on a eu quand même l'effet Covid qui nous a bien, bien pénalisé. Et donc, on a ouvert nos nouvelles activités il y a 18 mois maintenant, et on est content. Je pense que c'est vraiment un stade très, très atypique, très multifonctionnel, et que les autres clubs nous envient.
Alors, je disais, toi, le sport, l'économie, donc on vient de le voir, là, tu as un bureau au FC Metz Stadium, tu as un bureau à Nancy au titre de ta responsabilité de président, à Tomblaine plus exactement, en titre de président de la Ligue Grand Est de tennis, puis tu as aussi encore un bureau à Paris.
Oui, c'est mes trois vies pro. En effet, alors moi, priorité évidemment FC Metz Stadium, hein, c'est mon job, c'est là où je suis rémunéré et c'est là où je dois mettre l'essentiel de mon énergie, mais les autres métiers, on va dire, puisque me servent malgré tout dans ma vie, y compris professionnelle. À la maison régionale des sports à Tomblaine, on a quand même une quarantaine de salariés à la Ligue Grand Est, et puis bien sûr il y a les 400 collaborateurs de la fédération qui... Puisque c'est ma responsabilité d'encadrer le tournoi de Roland-Garros avec Amélie Mauresmo, eh bien, il faut que je puisse les voir fréquemment. Donc, en effet, j'ai un petit bureau là-bas.
Donc, parce que tu es vice-président, aux grands événements.
En charge des grands événements, c'est ça.
Pour la fédération.
Exactement. Donc, depuis le début du mandat de Gilles Moreton, et je le remercie de m'avoir fait confiance sur une mission qui est passionnante.
Tu t'éclates.
Ah ouais, mais ça, vraiment. Roland-Garros, le Rolex Paris Master et la préparation des Jeux Olympiques, c'est vraiment plus qu'un hobby, hein, et puis ça m'apporte là aussi intellectuellement, je rencontre des gens, ça me fait une porte ouverte très forte sur Paris, et ce qui me permet de sortir du Grand Est, d'aller chercher des idées et de pouvoir faire la connexion entre mes trois cercles professionnels, on va dire.
Tu le dis, tu l'affirmes déjà, je mélange tout, tous mes engagements, et tu le revendiques, pourquoi ?
Bah parce que j'ai qu'une vie, en fait, voilà, one life, quoi. C'est tout. Alors maintenant, c'est le sport, mais avant, même quand c'était pas le sport, je mélangeais tout. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai pas trop de week-end, c'est du lundi au dimanche, j'ai pas forcément de soirée non plus. Parfois, je me libère, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, j'aime bien mélanger les différents cercles, le cercle parisien sur Roland-Garros avec le Grand Est pour tirer le Grand Est, et puis évidemment là aussi maintenant la famille du FCMS et du FCMS Group, donc tout ça, voilà, c'est un joyeux bordel pendant 7 jours sur 7, mais ça permet d'être très investi. Enfin, je crois que je travaille beaucoup, mais j'aime ça, j'ai pas l'impression de travailler, et j'essaie de faire du mieux que je peux.
Mais justement, c'est pour ça qu'avant d'attaquer la frénésie, on a attaqué un peu les piliers, puis on travaille en verticalité sur de la méditation que tu évoquais. Tu as eu le malheur, j'ose le dire, Lionel, d'annoncer un peu ta venue. Du coup, j'ai eu 2-3 textos avant, donc je suis obligé quand même de te poser 2-3 questions d'actu, si tu veux bien.
Avec plaisir.
Comment ça se fait que sur le tennis, on n'arrive pas à sortir un Yannick Noah depuis si longtemps, et est-ce que la Fédé protège pas trop ? Est-ce que la Fédé ne nourrit pas trop ?
Le rôle d'une ligue, c'est d'abord de former jusqu'à 14 ans, et ensuite la fédération, avec la ligue, c'est d'amener les meilleurs joueurs sur le circuit professionnel. La France est aujourd'hui le premier pays au monde en nombre de joueurs professionnels. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui fait le job devant l'Espagne, devant les États-Unis. Ils sont une majorité de Français. Mais après, c'est un projet personnel. Et il faut que chacun se prenne en main. Et peut-être qu'en effet, ils n'ont pas suffisamment faim, on va dire, pour pouvoir ensuite monter l'écosystème. Ouais. Peut-être qu'on les accompagne trop bien, justement, au départ. Mmh. Mais notre job, c'est pas de les amener dans le top 10 ou numéro 1 mondial. Djokovic, il est numéro 1 mondial. La Fédération Serbe n'a rien fait pour lui. Idem pour Federer. C'est des projets perso. C'est une petite entreprise. Chaque joueur de tennis est une petite entreprise.
Il nous reste 30 secondes, Lionel. Ton projet perso maintenant ?
Être heureux ? Mais mon père me dit, ça veut dire quoi être heureux ? Je vais chercher encore un peu.
Merci d'avoir posé tes valises à Nancy, que tu poses régulièrement d'ailleurs. Merci Lionel de ce vrai moment de partage. My love can't do me no harm.
sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice.